20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Pour clore cette journée spéciale consacrée à la Fondation Louis Vuitton, nous passerons donc cette soirée avec le compositeur Max Richter, invité cette saison en résidence à la Fondation. Il sera donc à notre micro tout à l'heure et puis à 20h30, nous pourrons profiter du premier volet de cette résidence, d'un concert exceptionnel capté en novembre dernier avec plusieurs œuvres de Max Richter, dont une création inspirée par le peintre Marc Rothko. Entre notre interview et le concert de Max Richter, Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait de l'un des pianistes invités cette saison à la Fondation dans le cadre de ce remarquable cycle Piano Nouvelle Génération. Il s'agit du jeune pianiste canadien Kevin Chen. Alors Max Richter est l'une des figures emblématiques de la scène contemporaine, un musicien qui travaille beaucoup sur le son, sur les timbres, sur l'association des sons électro avec un orchestre symphonique et qui s'illustre dans des domaines très variés, témoignant d'une grande curiosité pour différentes expressions artistiques. Il nous parle tout d'abord de ses liens avec la Fondation Louis Vuitton, avec ce lieu, ce bâtiment qui incarne justement la création et l'inspiration.
De toute évidence, la Fondation Louis Vuitton présente une architecture extraordinaire. Elle nous renvoie au rôle du travail de création dans notre société. Et c'est une incarnation physique du travail à valeur ajoutée, de quelque chose d'important et de pertinent au sein de la société contemporaine. Within contemporary society, and for me, that's very. Pour moi, c'est très important. I love that about it. I love about the visionary. J'aime cette architecture visionnaire, créée pour abriter l'infraculture dans la capitale. Home for culture, in the capital city. So it's very. C'est très inspirant.
Et pourquoi avez-vous accepté cette résidence? Qu'est-ce que ce concept, d'ailleurs, de résidence signifie pour vous?
Creative work is really. Le travail créatif est étroitement lié aux relations aux autres, à la façon dont les autres personnes voient le monde. Vous savez, quand on lit une nouvelle ou quand on écoute un morceau de musique ou quand on regarde un film, on ressent comment un autre esprit voit la réalité et la façon dont cet esprit met les choses en ordre pour donner un sens au monde. C'est ce que le travail de création permet de faire. Et avoir un bâtiment dédié à ces choses, c'est en soi vraiment passionnant. C'est un endroit où vous pouvez créer des relations, entamer des conversations, créer des échanges qui ont lieu en direct. Avoir l'opportunité de passer du temps dans un lieu comme celui-là est formidable.
Alors cette résidence est liée à l'exposition dédiée à Marc Rothko, un peintre que vous avez découvert, Max Richter, dans votre jeunesse. Quelle place occupe-t-il justement dans votre vie?
Oui, Rothko est un peintre que j'ai apprécié dans les premiers instants où j'ai vu son œuvre quand j'étais enfant. Plus tard, quand j'ai étudié à Londres à la Royal Academy, j'allais souvent à la Tate Gallery pour recharger mes batteries créatives. Je passais des heures dans la salle dédiée aux Seagram murals. Le travail de Rothko a été une sorte d'étoile polaire pour moi, un guide de conduite. Pour donner un exemple de ce que peut faire la création, de l'impact qu'elle peut avoir sur nos vies. L'art de Rothko est vraiment très simple, direct. Mais en réalité, plus vous passez du temps avec, plus vous réalisez que c'est extrêmement profond et que cela nous pose d'importantes questions sur comment nous utilisons notre temps et ce que nous faisons de nos vies. C'est ce que je trouve si passionnant dans son art. Cette synthèse entre ce qui semble si simple et direct, mais en même temps profond.
Alors nous savons que Marc Rothko aimait beaucoup la musique, elle lui était même vitale, en particulier celle de Mozart. Est-ce que vous le ressentez quand vous regardez ces peintures ?
Yes, it's interesting, isn't it?
Oui, c'est intéressant, n'est-ce pas ?
Perhaps tend to view their own.
Chaque artiste a peut-être tendance à minimiser dans son propre travail le réel rôle de l'inspiration et du rapport à la musique ou à la poésie. La relation entre la musique et son œuvre est effectivement très importante chez Rothko. Et les peintures ont quelque chose de très musical, dans le sens où, comme la musique, elles sont très difficiles à définir. Il est difficile de parler de la musique. Et je crois que l'art de Rothko a cette qualité similaire. Il existe dans une sphère qui est au-delà du langage. On peut discuter des œuvres, mais la vraie signification du travail de Rothko est quelque chose qui ne peut être vécu que par le ressenti.
Un petit extrait de Unity Fields de Max Richter par l'orchestre Le Balcon, dirigé par Matthew Lynch. Un petit extrait de ce concert capté en novembre dernier à la Fondation Louis Vuitton et donc diffusé tout à l'heure à 20h30 sur Radio Classique. Une œuvre, Unity Fields, directement inspirée par la méthode de peinture de Rothko, consistant à superposer différentes couches de peinture pour créer des effets de lumière. Ce que Max Richter a donc appliqué avec des textures sonores. Nord, comme il nous l'explique.
Rothko obtenait cet effet de peinture qui donne à ses œuvres une impression de brillance ou d'imitation de lumière, en superposant de nombreuses couches de peinture fine. Cela m'a donné une impression de composition itérative, Un contrepoint où plusieurs couches de matériel musical se superposent et interagissent de différentes manières. Donc pour moi, c'était un point d'entrée simple, une manière facile de communiquer avec le langage technique de Rothko grâce à la musique. C'est intéressant pour nous de faire l'expérience de voyager, non pas avec des couches de peinture, mais cette fois en entendant différentes couches à l'intérieur d'une composition musicale.
Et est-ce que vous avez d'autres points communs avec Rothko dans votre approche artistique, dans votre conception de l'œuvre d'art ?
Je pense que l'œuvre de Rothko nous ramène aux fondamentaux. Même si c'est très sophistiqué, même s'il y a une curiosité philosophique dans son attitude qui le poussait à réaliser des créations de manière sincère, le rendu en lui-même est très direct. Vous pouvez aimer ou non, mais il a un impact direct et immédiat. C'est quelque chose que je trouve très attirant dans son travail. Et que j'essaye de faire dans mon propre travail. J'essaye de faire quelque chose qui ne nécessite pas de connaissances particulières pour que l'on puisse s'y identifier. Quelque chose qui parle très simplement.
Something which speaks very plainly.
Tout comme les peintures de Rothko, vos œuvres donnent souvent l'impression d'une grande simplicité avec en même temps une grande profondeur. Beaucoup de musiciens nous disent qu'il est très difficile de jouer de la musique simple. Est-ce que c'est également difficile d'atteindre la simplicité dans la musique ?
Yes. Well,
je suis intéressé à l'idée de faire des choses qui paraissent faciles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont simples. En fait, je passe beaucoup de temps à travailler en coulisses, si l'on peut dire, pour créer quelque chose de puissant et avec une résonance, mais qui paraît simple. C'est quelque chose d'assez difficile à faire. Et vous avez raison, ces choses ne sont pas faciles à jouer non plus. En fait, elles sont très exigeantes à jouer. Disons qu'elles sont faciles à être mal jouées, mais très difficiles à être bien jouées.
Certaines de vos œuvres, comme Exil, qui évoque la crise des réfugiés syriens, sont liées au monde d'aujourd'hui, à ses bouleversements. Est-ce essentiel dans votre approche en tant que compositeur d'écouter la société contemporaine et de la traduire quelque part dans votre musique ?
Cela me paraît évident de le faire. Je sais que tous les artistes ne sont pas d'accord. Chacun a son idée sur comment son œuvre doit être liée au monde autour de nous, si elle doit l'être ou non. Les gens ont différentes opinions à ce sujet. Pour moi, ça paraît évident que le travail créatif doit être lié au monde dans lequel nous vivons. C'est quelque chose d'instinctif. Et souvent, je capitalise des idées pour ma création en pensant à la situation du monde et à ce qui se passe dans le monde. Cela me paraît évident de le faire.
Un petit extrait de Sleep de Max Richter, une œuvre de près de 8 heures destinée à endormir le public. Une œuvre qui a été jouée dans différentes salles à travers le monde et notamment à la Philharmonie de Paris dans le cadre d'une véritable expérience autour du rôle de la musique sur le sommeil. Car pour Max Richter, dont certaines œuvres ont été jouées également sous la forme d'une déambulation dans les galeries de la Fondation Vuitton, pour Max Richter, donc, l'écoute de la musique peut être propice à différentes expériences.
J'aime m'interroger sur la richesse des notions d'interprétation et d'écoute musicale.
You know, the rituals and the notions of musical performance and musical listening.
Je m'intéresse également à la dimension utilitaire de la musique. Vous avez des musiques pour vous marier, pour danser, pour aller à la guerre, être enterré, pour toutes ces choses qui arrivent dans notre vie, nous avons une musique. Donc, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant d'avoir une musique faite spécifiquement pour dormir. Et dans le cas du morceau joué dans l'installation Rothko, c'est une pièce spatiale qui accompagne le moment de découverte des peintures.
L'un de vos récents grands succès est votre version des 4 saisons de Vivaldi. Est-ce que vous prévoyez de revisiter un autre chef-d'œuvre du répertoire de la musique classique ?
Non, cette recomposition était une situation vraiment unique pour moi et une situation très personnelle. Je suis tombé amoureux de la version originale de Vivaldi quand j'étais enfant. Et ensuite, adulte, je suis souvent retombé dessus. Dans les pubs ou au téléphone, par exemple, tout le temps. Je commençais à ressentir de l'indifférence pour cette œuvre que j'aimais autrefois. Pour moi, la recomposer, c'était une sorte d'opération de sauvetage pour essayer de retrouver mon amour d'origine pour cette musique. Donc c'est vraiment une situation particulière qui ne concerne que cette œuvre en particulier et je ne ressens ce besoin avec aucune autre pièce du répertoire.
Et quelle œuvre êtes-vous en train de composer en ce moment ?
Je viens juste de finir un enregistrement qui sortira en septembre. Il me semble. Et en même temps, je travaille aussi sur quelques autres ballets.
Merci beaucoup, Max Richter. C'était un plaisir de parler avec vous. Nous avons hâte de découvrir la prochaine étape de votre résidence à la Fondation Vuitton. Ce sera le 24 janvier et puis le 20 mars.
Thank you so much.
Voilà un extrait des quatre saisons de Vivaldi, en l'occurrence ici le printemps, revisité par Max Richter avec le violoniste Daniel Hopp et l'orchestre de chambre du Concerthaus de Berlin sous la direction d'André de Rieder. Et nous pourrons donc profiter dans quelques minutes de ce concert de Max Richter, capté en novembre dernier à la Fondation Louis Vuitton, le temps de notre chronique du mardi avec Thierry Lériteau.
Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, un pianiste qui, du haut de ses 18 ans, cumule déjà les records.
Oui, c'est peu de le dire, cher Laure. Kevin Chen, il sera le 8 février prochain l'invité de la série Piano Nouvelle Génération à la Fondation Vuitton à Paris. Donc, une occasion unique de découvrir enfin à Paris ce jeune Canadien qui défraye la chronique outre-Atlantique depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et pour cause, à l'âge de 10 ans seulement, ce natif de Calgary avait déjà composé, écoutez bien, 3 symphonies et plus de 80 pièces pour piano, pour violon, dans tous les registres possibles, musique de chambre, œuvre soliste ou concertante. C'est aussi à cet âge, d'ailleurs, qu'il fit ses débuts, tout ce qu'il y a de plus officiel, de soliste, avec l'orchestre philharmonique de sa ville natale, la troisième plus grosse de tout le Canada, quand même. Un événement, il s'agissait d'ailleurs sans surprise du plus jeune soliste jamais programmé par l'orchestre lors de sa saison annuelle. Il avait alors interprété le 27e concerto de Mozart avec une aisance qui, il faut bien le dire, avait laissé musiciens et commentateurs sans voix.
Et une précocité qui le suit depuis le tout début de sa carrière.
Eh bien oui, plus jeune diplômé du Conservatoire Royal du Canada, à l'âge de seulement 8 ans quand même. Il fut aussi le plus jeune pianiste canadien à jamais faire ses débuts avec un orchestre, c'était un an plus tôt, cette fois avec l'Orchestre des Jeunes d'Abbotsford, mais aussi le plus jeune interprète à avoir intégré le classement des 30 musiciens les plus prometteurs, établi chaque année par la radio canadienne, ou encore le plus jeune lauréat du concours international Franz Liszt de Budapest, ça c'était en 2021, une étape parmi d'autres dans un véritable marathon de compétition jalonné de nombreux succès. Le dernier en date, eh bien, c'était à Tel Aviv il y a moins d'un an pour le concours Rubinstein, 4 mois à peine après avoir remporté le concours de piano de Genève.
Pour autant, Thierry, Kevin Chen n'est pas qu'un simple prodige aux allures de bête de concours.
Hein. Et non, Laure, il reconnaît d'ailleurs si les compétitions sont aujourd'hui des tremplins indispensables pour se catapulter, c'est ce qu'il dit dans le monde musical. Le stress qu'elle génère n'est pas trop sa tasse de thé, il leur préfère largement les concerts et les récitals qui sont pour lui, je cite, une manière autrement plus libre et plus ouverte d'aller à la rencontre du public comme des grands compositeurs. Et puis surtout, vous l'avez dit, eh bien, au-delà de ses habiletés techniques exceptionnelles qui lui ont permis de survoler le concours Franz Liszt, c'est avant tout par son extraordinaire maturité que Kevin Chen a fait preuve depuis ses 10 dernières années de la plus grande précocité, un sens musical inné qui a d'ailleurs immédiatement séduit sa professeure Colleen Akparia. Elle avait accepté à titre exceptionnel de le prendre comme élève à l'Université de Calgary où elle enseigne alors qu'il n'était encore qu'un tout petit garçon.
Et pourtant, rien ne semblait le prédestiner à devenir l'un des pianistes les plus en vue de la jeune scène canadienne.
Eh bien non, c'est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Il est né de parents d'ascendance chinoise dont aucun n'est musicien. Son père est ingénieur à Calgary. Il lui avait offert pour ses 2 ans un petit piano joué. Vous savez, c'est ces petits claviers électroniques là qui font des couleurs et qu'on offre aux tout petits. Et bien, quelques jours plus tard, Kevin et ses parents traversent un magasin de musique. Le petit file droit vers un vrai piano et commence à y pianoter toutes ses comptines de crèche. Le directeur du magasin, qui n'en croit pas ses oreilles, recommande alors au Chen de l'inscrire sans tarder à un cours de piano avec un vrai professeur, lui prédisant un avenir fulgurant dans la profession. Et bien, il ne s'y sera pas trompé. 2 ans plus tard, le père de Kevin s'exécute et au bout de quelques mois avec un premier prof, ce dernier l'oriente vers Colin Atparia. La suite, vous la connaissez désormais, mais une chose reste sûre, Laure, l'histoire prodigieuse de Kevin Chen, elle, n'a pas fini de s'écrire.
C'était en novembre 2022, à l'occasion de la finale du concours de Genève, remportée par Kevin Chen.
Exactement.
Voilà Kevin Chen que l'on écoute ici dans le second mouvement du premier concerto de Chopin, accompagné par Marzena Diakoun. Merci beaucoup, avec l'orchestre de la Suisse romande. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Kevin Chen, qui sera donc en récital le 8 février à la Fondation Louis Vuitton. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, là.
Quant à nous, on se retrouve dans un petit instant pour profiter du concert consacré à Max Richter, capté en novembre dernier à la Fondation Louis Vuitton, non sans remercier Bertrand Dorigny pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, notre invité, nos invités plutôt, seront des chanteuses que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup, que vous avez repérées, Thierry, qui auraient pu figurer dans cette chronique, les 3 chanteuses
d'un ensemble vocal. Je sens que nous allons parler d'un trio vocal
qui s'appelle Les Itinérantes.
Les Itinérantes, exactement, qu'on entendra entre autres à la folle journée de Nantes.
Voilà, très belle soirée à tous. Je vous retrouve dans un instant pour vous présenter le concert dédié à l'œuvre de Max Richter.